cours de la Bible. Donc je vous rassure, ce n'est pas un cours de cuisine qui se prépare. Pour ceux qui ne voient pas, il y a de la farine, il y a de l'eau. Ça va juste me permettre d'illustrer mon propos. En fait, au quotidien, je travaille avec des enfants. Et donc j'ai pris l'habitude, quand je présente quelque chose, de toujours l'illustrer avec quelque chose que les enfants peuvent retenir. Alors ce n'est pas que je vous prends pour des enfants. Mais même les grands, on a besoin, je pense, des fois de choses concrètes pour nous rappeler des choses importantes et des choses physiques aussi pour illustrer des choses des fois plus profondes et intérieures. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui aiment la cuisine aujourd'hui. Normalement, après, on va manger, donc j'espère que... Voilà, super. On vérifiera ça, tout ça après, pendant le repas partagé. Je ne suis pas cuisinier, mais on va essayer de faire une petite recette ensemble ce matin. Et le titre de cette courte méditation, c'est la recette pour réussir sa vie avec Dieu. Alors, je ne vais pas en 15 minutes vous faire toute la liste. Je vais juste donner quelques bons ingrédients qui me semblent pertinents pour nos baptisés du jour, mais aussi peut-être pour nous tous, qu'on en soit au début de notre cheminement avec Dieu, qu'on ne connaisse pas Dieu du tout, ou que ça fasse peut-être des décennies qu'on a suivi Jésus, on peut, je pense, se rappeler des choses essentielles. Et pour ça, on va lire un texte dans un passage de la Bible qui s'appelle l'Évangile selon Jean. En fait, pour expliquer rapidement, il y a un monsieur qui s'appelle Jean, qui a vécu avec Jésus et qui a écrit une biographie de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu. Et donc on appelle ça l'évangile de Jean, donc c'est un passage, un livre de la Bible qui raconte la vie de Jésus sous l'angle de ce personnage, ce disciple de Jésus. Et pour mettre un peu de contexte, on est à un moment où il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Jésus, qui l'ont vu faire des choses exceptionnelles, qui l'ont entendu parler, qui se sont dit ce monsieur, Jésus, il n'est pas comme les autres. Et donc ils l'ont suivi, et il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus. Et là Jésus il vient de dire des choses qui ont été assez choquantes, assez troublantes pour tous les gens autour de lui. Et il y a une discussion entre toute cette foule qui a suivi Jésus et Jésus. Et on va voir un petit peu comment ça se déroule. Alors le texte nous dit ceci. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples se récrièrent. C'est trop fort, on n'y comprend rien. Impossible d'admettre un tel langage. Qui peut continuer à l'écouter ? Jésus savait fort bien en lui-même quel murmure ses paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit : Cela vous choque ? Mais si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, vous comprendrez. Les gens qui suivaient Jésus, ils avaient certainement plein d'avis sur qui était ce... Donc c'était un rabbin en fait, Jésus, c'est comme ça qu'il se présentait. Qui était ce rabbin ? Qui faisait des choses exceptionnelles. Alors est-ce que c'était un sage, un philosophe qui avait des pouvoirs un petit peu surnaturels ? Un rabbin charismatique, un guérisseur ? Est-ce que c'était le Messie qu'on attendait depuis des années qui nous sauverait ? Et Jésus, effectivement, il ramène à son identité pour expliquer son propos. Il dit, si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, vous comprendrez. Et quand Jésus dit ça, il fait écho à un texte que les gens qui l'écoutaient connaissaient bien, qui est un texte dans la tradition juive, dans la Bible, l'Ancien Testament, où il est question d'un roi, qu'on appelle le Fils de l'homme, qui va régner pour toujours, pour l'éternité, qui existait même avant pendant l'éternité. Et en même temps, il revendique à ce moment-là le fait que je suis un homme devant vous. Il fait appel à quelque chose que les gens connaissaient autour de lui. Et il dit, c'est de cette identité-là que vous pouvez comprendre ce que je dis. Il est important que vous compreniez d'où je viens et qui je suis. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui nous parlent d'effectivement ce Messie qui devait mourir et ressusciter, comme ça a été mentionné pendant les baptêmes. Et Jésus va utiliser une autre image un peu plus loin pour illustrer cela. Il va dire qu'il était comme le grain de blé qui devait mourir pour porter du fruit et apporter la vie. Je n'ai pas trouvé des grains de blé, alors j'ai ramené de la farine. Ok, c'est de la farine de blé. Et donc, finalement, les gens avaient besoin de comprendre qui était Jésus qui était en face d'eux. À la fois un Dieu éternel et à la fois un être humain de chair et d'os devant eux qui pouvaient les comprendre. Et qu'ils devaient comprendre aussi qu'à la fois la mort de Jésus était nécessaire pour les sauver et sa résurrection pour leur donner la vie. Et c'est ce que Noah, Sonia et Karine ont expérimenté, la nouvelle vie qu'offre Jésus par sa mort et sa résurrection. Et il y a quelques temps de ça, j'étais avec un jeune qui me posait plein de questions sur la foi. Il me disait, mais comment c'est possible que Dieu soit fait homme ? Le concept est surprenant. Et lui, dans sa conception de Dieu, c'était impossible que Dieu devienne un homme. Et honnêtement, je lui ai dit, je ne peux pas t'expliquer comment. Je peux t'expliquer pourquoi, vous l'avez entendu dans les témoignages, Et je peux te dire que c'est la plus folle et la plus belle histoire que j'ai entendue. Il m'a regardé et m'a dit, c'est vrai. C'est vrai, c'est la plus belle et la plus folle histoire qu'on a entendue. Et c'est le plus grand mystère qu'on puisse contempler. Et je crois qu'il y a un premier ingrédient dans une vie réussie avec Dieu, c'est de contempler le mystère Jésus. Se dire qu'on va toute notre vie apprendre à connaître cet homme Dieu surprenant, qui des fois peut nous choquer dans ce qu'il dit, et qui pourtant nous comble de joie quand on apprend à le connaître. Premier ingrédient. Donc j'ai ma farine qui est là. Okay. Deuxième ingrédient, on va pouvoir suivre le texte. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. Les paroles, donc c'est Jésus qui parle, les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Alors qu'est-ce que l'Esprit dont Jésus parle ? Tout à l'heure, vous avez entendu quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand je vais expliquer aux enfants ce que c'est le Saint-Esprit, je leur demande de mettre la main devant leur bouche et de souffler dessus. Et je leur dis, vous voyez, comme le vent, le Saint-Esprit, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir, pas toucher, mais vous voyez les effets dans votre vie, et c'est Dieu lui-même qui est en train d'agir dans votre vie. Notamment, je pense au témoignage de Sonia, on a entendu ce moment où elle a senti la présence, quelque chose, quelqu'un était là, qui l'aimait, et je crois que le Saint-Esprit, c'est ça. Et on a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. C'est lui qui donne la vie, la nouvelle vie que nos baptisés ont témoigné. Quand on plonge les gens dans l'eau, c'est un symbole aussi du Saint-Esprit qui transforme, qui purifie, qui donne la vie. Et je crois qu'on a besoin, pas juste au début de notre vie, mais tout au long de notre marche avec Jésus, du Saint-Esprit, qui va nous parler, notamment au travers de la Bible. Et donc, le Saint-Esprit, on le représente souvent par de l'eau. Hop. Je suis très mauvais en dosage, donc c'est possible que ça rate. Je fais ça à l'œil. Alors, nous avons donc deux ingrédients. Connaître Jésus et nous laisser imprégner par l'Esprit. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que comme le Saint-Esprit il est représenté par de l'eau, je pensais ce matin en priant que des fois nos vies elles peuvent sembler comme des terres très sèches, où il n'y a pas la vie. Et que comme on l'a entendu dans les témoignages, le Saint-Esprit c'est celui qui vient donner la vie, nous permet de porter du fruit, et que nos vies elles aient vraiment du sens. Deuxième ingrédient. Alors le troisième, on peut continuer la lecture. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas, c'est toujours Jésus qui parle. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas vraiment et qui était celui qui allait le trahir. Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne vient de lui-même à moi. Il ne peut venir que si le Père lui en donne la possibilité. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre, refusant de le suivre plus loin. J'ai parlé de Jésus, le Fils de Dieu, du Saint-Esprit, et là, Jésus introduit le Père. La troisième personne de ce que les chrétiens appellent la Trinité, ce n'est pas trois dieux, c'est un Dieu avec trois personnes tripersonnelles. C'est un autre mystère que je ne me prendrai pas le risque d'expliquer ce matin, parce que je risquerais de dire des approximations. Mais c'est une réalité, c'est un mystère à contempler. Et ce que je note, c'est cette parole de Jésus qui nous dit qu'en fait, c'est vraiment un cadeau que le Père nous appelle à lui, par Jésus. Et chers baptisés, je voudrais vous dire, vous avez ce privilège d'avoir été appelé par Dieu à venir à lui. Et vu que c'est son initiative, vous pouvez être sûr qu'il vous tient, il vous gardera. Malheureusement, on voit dans ce texte qu'il y a des personnes qui semblent commencer à suivre Jésus et qui finissent par s'arrêter, qui ne croyaient pas vraiment, et même certains qui vont le trahir. Moi, j'ai pu être par le passé de cela. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je ne vais pas vous faire un long témoignage comme voilà, ce n'est pas mon jour de baptême, mais pour faire court, j'ai eu une expérience avec Dieu très forte, un déclic, et pourtant, après quelques mois de marche avec Jésus, j'ai vu que fallait faire des choix. Et que des fois, les choix, ça nous coûtait. Et notamment dans les fréquentations que je pouvais avoir à ce moment-là, quand il a fallu choisir entre couper, alors c'est pas de s'isoler, mais de dire cette relation était nauséabonde, elle me menait nulle part. Et quand il a fallu couper, j'ai fait le mauvais choix. J'ai préféré couper ma relation avec Dieu que celle avec ces personnes qui m'emmenaient dans la mauvaise direction. Et je suis redevenu vide, malheureux, comme j'avais pu l'être avant de connaître Jésus. Et c'est en touchant le fond et en prenant un cours de philo, comme quoi Dieu se révèle où il veut, que mon prof m'expliquait comment être heureux, et que je me suis dit, mais en fait, je crois que j'avais trouvé ce que c'était quoi la solution. Ça s'appelait Jésus, le découvrir, recevoir la vie par l'Esprit. Et je crois qu'un ingrédient pour vivre une vie heureuse avec Jésus, je crois que l'expérience est un échec, mais c'est pas grave, il y avait un plan de secours. Pour vivre une vie réussie avec Jésus, c'est de persévérer dans la main du Père et dans l'amour du Père. Se rappeler que le Père nous aime et quotidiennement nous rappeler qu'on est aimé par un Dieu qui nous a créés. Très bien, bon, j'active le plan B. Cette pâte me servira pour la suite. Ensuite, on continue notre texte. Alors Jésus se tourna vers les 12, donc il y avait 12 personnes qui suivaient Jésus d'un petit peu plus près, et leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » Petite parenthèse, la vie éternelle, ce n'est pas juste le concept de vie après la mort. Le mot là, le mot « vie », dans le texte en grec, c'est le mot la vraie vie, la vie pleine, la vie entière, la vie heureuse. Dès maintenant et pour l'éternité. Nous t'avons fait confiance et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. Et je suis marqué par ces deux étapes. Il y a une première étape, nous t'avons fait confiance. Et les baptisés, ce que vous nous avez dit, c'est vous avez fait confiance à Dieu. Vous l'avez rencontré, vous avez décidé de dire, maintenant je marche avec toi. Mais, il dit, sur le chemin, nous avons acquis, il y a un processus, on a acquis la conviction que tu es le saint, le spécial, celui qui est différent des autres et qui a été envoyé par Dieu lui-même. Ce que je vous encourage à être, c'est à être comme cette pâte très malléable par Dieu. À continuer de vous dire, vous avez cru et maintenant, la vie avec Dieu, ça va être tout un processus pour découvrir Jésus, le Père, le Saint-Esprit, de nouvelles manières. Et que votre cœur il soit comme cette pâte malléable entre les mains de Dieu. Ok. Je vais continuer avec juste en conclusion trois petites remarques complémentaires, parce que si je reste avec cette pâte, il va me... Enfin, je ne sais pas si ça vous donne envie, mais bon. Il y a encore un peu de travail. Alors, trois choses qui me semblent complémentaires pour aller un peu plus loin et réussir sa vie avec Jésus. La première chose qu'on peut afficher à l'écran, c'est le sel. Vous voyez, cette pâte, elle est très simple à faire. Et je crois que la vie avec Jésus, ce n'est pas très compliqué, en fait. Des fois, on complique les choses, mais connaître Jésus, recevoir les paroles de l'Esprit, être aimé par Dieu, mais ce n'est pas fade. Et Dieu, il va venir rajouter un peu de sel, je ne vais pas en mettre trop, hein, dans votre vie. Et c'est ça qui, je crois, qu'on peut se rappeler aussi, c'est que Jésus, c'est vraiment celui qui va donner du sens, de la saveur à une vie qui parfois est fade quand on ne l'a pas dans notre vie. La deuxième chose, c'est que cette pâte-là, vous avez, n'est pas spécialement belle, elle est loin d'être parfaite. Et je crois que dans notre vie avec Dieu, c'est important de se rappeler souvent que la dévotion à Dieu est plus importante que notre perfection. Pour citer un pasteur, il a formulé comme ça, Dieu ne nous demande pas la 100% perfection, mais nous demande la 100% dévotion. C'est ok de ne pas être parfait, c'est ok de cheminer, c'est ok d'apprendre, mais ce que le Seigneur nous demande, c'est juste de bien laisser notre vie entre ses mains, de lui faire confiance. Et le dernier élément, c'est la cuisson. Si je veux manger mon pain, il va falloir que je le cuise. Je vous laisse imaginer dans la vie ce que ça veut dire être cuit. Ça veut dire que je préfère vous prévenir. Ça ne va pas toujours être facile de suivre Jésus. Il y a des épreuves, des choses que Dieu permet pour que notre belle pâte, qui est toute douce au début, eh ben, elle puisse prendre du goût, qu'elle soit consommable, et que notre vie, elle mature en Dieu. Donc je récapitule quelques ingrédients. Premier ingrédient dont on a mentionné, c'était le fait de contempler le mystère Jésus. Quotidiennement, régulièrement, penser à Jésus, essayer de le comprendre, tout en saisissant qu'on ne pourra jamais pleinement le comprendre. Deuxième ingrédient, être rafraîchi par l'Esprit. Par la Bible, par l'Esprit de Dieu, dans les temps de silence aussi, mieux connaître Dieu au travers de son Esprit. Troisième ingrédient, nous rappeler qu'on a besoin de persévérer dans l'amour, nous rappeler qu'on est aimé par un Père céleste. Et quatrième ingrédient, rester malléable à la découverte de Jésus. Et je voudrais vous laisser avec une promesse que Jésus a faite à ceux qui voulaient le suivre. Il a dit ceci. Mais je veux vous dire une chose, vraiment, je vous l'assure. Celui qui croit en moi est certain d'avoir la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Je termine en priant. Seigneur, merci parce que tu es vraiment un Dieu merveilleux, un Dieu qu'on ne peut pas comprendre avec nos petits cerveaux, mais qu'on peut expérimenter, et que tu nous permets en plus de te comprendre petit à petit, jour après jour, un peu mieux. Merci pour cet amour qui nous transforme. Merci pour ta venue, Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui vient nous purifier jour après jour et nous rafraîchir. Merci pour ton cœur de Père qui nous aime, quelles que soient nos actions ou nos oublis. Et merci parce que tu es celui qui veut transformer nos vies jusqu'à les rendre parfaites pour le jour où on sera face à face avec toi. Je te remets Karine, Sonia et Noah. Je te prie de les bénir. Je te prie de vraiment continuer ce que tu as commencé en eux. Mais je te prie aussi pour chacun d'entre nous qui cheminons avec toi, que nous puissions, nous aussi, continuer d'être émerveillés, rafraîchis, persévérants et transformés par qui tu es, Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen.